Nous recevons ce matin dans le grand entretien la présidente du Rassemblement National. Vous pouvez évidemment intervenir, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter. Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Et merci d'être au micro de France Inter. Commençons tout de suite par le dossier des carburants. Hier, la métropole du Grand Paris, qui regroupe les dizaines de communes autour de la capitale, a voté gauche et droite confondues pour interdire les véhicules diesel immatriculé avant 2001. En juillet prochain, ils ne pourront plus circuler. Est-ce que vous vous réjouissez de cette décision ?
Non, mais pas du tout. Je la trouve profondément scandaleuse, dans la droite lignée d'ailleurs des décisions qui ont été prises récemment. Soyez quand même conscients que tous ces gens qui viennent de voter cette décision sont les mêmes qui, depuis 20 ans, ont poussé, à coup d'incitation fiscale, les Français à acheter des voitures diesel. Et qui, du jour au lendemain, brutalement, dans le cadre de ce qui ne correspond pas du tout à une transition, parce que dans le terme transition, il y a quand même un concept de longueur. Dans le cadre d'une rupture brutale, leur explique que le prêt qu'ils ont effectué, qui est souvent lourd sur le budget des ménages pour acheter leur voiture, eh bien, n'a servi à rien, puisque leur voiture, ils ne pourront plus l'utiliser. C'est un véritable scandale. Et toutes les réponses qui sont apportées sont des réponses qui sont ressenties comme une brutalité par les Français.
Oui.
Parce que ça vient en plus de, évidemment, cette loi transition énergétique taxe carbone décidée en 2014. Monsieur Macron était déjà dans le circuit, si je puis me permettre, et qui a créé une fiscalité qui est punitive.
Oui, mais Marine Le Pen, ce sont des réponses à un fait qui est que le diesel, ça tue. Les voitures au diesel sont sur les routes. S'il y a des particules fines qui sont partout, que vos enfants respirent, 42 000 morts prématurées en France, ce sont des faits et il faut apporter des réponses. Si vous étiez au pouvoir, si vous étiez présidente aujourd'hui, vous diriez quoi ? On continue à rouler au diesel, on ne change rien, surtout on ne change rien, gardez vos voitures au diesel ?
Non mais écoutez, surfer sur la peur, comme on fait aujourd'hui pour justifier ce qui est injustifiable, c'est-à-dire la brutalité de la hausse de la fiscalité, évidemment c'est honteux. Parce que si vous partez de là...
Sur la peur, non, mais que de dire 42 000 morts par an ?
C'est un fait qu'il y a un problème de pollution. Il y a aussi un problème de maladie cardiovasculaire avec le sucre, avec le gras, avec... On peut faire, si vous voulez, cette opération sur énormément de choses. Expliquer aux gens qu'à partir de demain, ils ne pourront plus manger de gras, de beurre, de sucre, parce que sinon, ils vont en mourir. Donc, il y a un problème.
La pollution, c'est la même chose.
Dans la pollution, il y a un problème. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus pas faire une transition qui soit une transition raisonnable et supportable pour les Français.
Alors, vous proposez quoi ? Vous ne me répondez pas.
Je vais vous répondre. D'abord, je propose de revoir l'aménagement du territoire. Parce que ce sont les mêmes qui aujourd'hui punissent les Français, qui ont créé les conditions pour qu'on ne puisse pas vivre là où on travaille. D'accord ? Ils ont fait des quartiers pour travailler et puis des quartiers pour vivre le plus loin possible d'ailleurs, pour obliger en réalité les Français à utiliser leur voiture. Deuxièmement, je m'interrogerai.
Rapprocher les lieux de travail des lieux d'habitation, oui. C'est ce que vous avez dit
oui,
sur
bien sûr, c'est un problème
Radio
d'aménagement.
Classique.
Bien sûr, c'est un problème d'aménagement du
vraiment
territoire.
Bon. Vraiment. Vraiment.
Oui,
c'est
vraiment.
Ça la solution.
Non, mais il n'y a pas.
Mais il y a toujours des mobilités.
Mais laissez-moi.
On peut pas tous travailler à 5 minutes de chez soi.
Mais laissez-moi terminer. On augmente le prix, encore une fois, de l'essence, du carburant, de manière spectaculaire, alors que dans le même temps, on baisse l'offre de mobilité et notamment les services publics et le train et j'en passe. Et je parle ici des campagnes. Est-ce que vous croyez pas qu'il n'y a pas un problème ? Troisièmement, nous avons adopté depuis des années un modèle économique est un modèle économique meurtrier pour la planète, hyper polluant, qui est le libre-échange total, qui fait que encore une fois, on va chercher à des dizaines de milliers de kilomètres ce que l'on consomme ici, avec en mettant les productions sur des super-tankers dont on sait que quelques-uns d'entre eux polluent plus en particules fines que l'intégralité des voitures françaises. Voilà, vous voyez, c'est ce sentiment d'injustice, si vous voulez, que les Français ressentent. Oui, il faut tourner le dos au libre-échange. Oui, il faut faire du localisme. Oui, il faut essayer de consommer ce que nous produisons au plus près
est-ce que Marine Le Pen,
parce que c'est ça la véritable écologie. Mais
est-ce
on
que
voit
vous êtes
bien...
pour la décroissance, par exemple,
mais
quand
pas
je
du
vous
tout.
Écoute parler
mais pourquoi le fait de produire ici serait de la décroissance ? Ça n'est pas de la décroissance. Aujourd'hui, on a adopté un modèle mondialiste dont je dis depuis des années qui consiste à faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Je crois que jamais je n'ai eu autant raison qu'aujourd'hui. Alors, Le monde entier est en train, en réalité, de tourner le dos à cette mondialisation sauvage, au libre-échange. Il n'y en a qu'un qui, aujourd'hui, continue à défendre de manière inouïe ce modèle, c'est Emmanuel Macron.
Mais il a changé, vous l'avez noté, il y a deux, trois jours, il a dénoncé l'Europe ultralibérale. Est-ce que vous lui reconnaissez d'amender sa position?
Non, je lui reconnais de tourner sur lui-même comme une toupie, au point que les Français en ont mal à la tête. Car, en réalité, il prononce des propos qui sont des propos électoraliste, car il sait bien que les Français sont opposés à cet ultralibéralisme, mais il en est le symbole. Enfin, il en est le symbole politique. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il décide, vise en réalité à défendre une politique que j'appelle une politique nomade contre une politique enracinée.
On va y revenir à la question de l'Europe et des Européennes. Quelques questions tout de même encore sur le carburant. Bruno Le Maire, hier à ce micro, disait que le gouvernement allait très certainement, on attend les arbitrages, travailler sur le chèque énergie, la prime à la conversion. Ça va dans le bon sens?
Mais est-ce que Monsieur Le Maire peut prendre conscience que la moindre voiture hybride aujourd'hui coûte au bas mot 20 000 euros? Est-ce qu'il croit qu'avec ces primes de 1 000, 1500 ou même, imaginons, 2 000 euros, il va permettre à des dizaines de milliers de foyers français de changer leur voiture, c'est-à-dire de sortir les 18 000 euros ou les 19 000 euros nécessaires? Ils n'en ont plus les moyens. Et vous savez pourquoi? Parce que tout a augmenté, parce que le gaz a augmenté, parce que le fuel a augmenté, parce que les mutuelles ont augmenté, parce que les assurances ont augmenté, parce qu'ils n'ont pas revalorisé les allocations familiales et les retraites qui sont revalorisées de 0,3% alors que l'inflation est de 2,2%. Vous me direz, pour le demandeur d'asile, ça a été 1,6%. Hein. Donc on voit où sont les priorités, en l'occurrence, du gouvernement. Parce qu'on continue avec le gel du point d'indice des fonctionnaires. Comment voulez-vous que les Français fassent face à cela? Il y a, c'est vrai, un ras-le-bol fiscal total, mais c'est pas un ras-le-bol de mauvaise humeur. C'est une impossibilité aujourd'hui de faire face à leurs charges.
Marine Le Pen,
c'est pour ça qu'à mon avis, la mobilisation du 17 sera importante.
Vous avez déclaré que vos cadres, vos élus seront dans la rue le 17, samedi prochain. Vous tractez, vous encouragez les gens à y aller, mais vous n'y allez pas. Pourquoi? C'est incohérent.
Parce que je suis chef de parti et comme je l'ai fait au moment de la manif pour tous, j'ai expliqué que je crois que la place d'un chef de parti n'est pas au sein des manifestations. Moi, je suis
Laurent
celle
Wauquiez
qui organise.
Laurent Wauquiez va y aller. Jean-Luc Mélenchon devrait y aller.
Vous savez qu'un certain nombre de personnes courent après ce qui est en train de se passer. Après avoir d'ailleurs eu sur cette manifestation des propos pour le moins prudents ou même des réserves et des distances. C'est leur problème. Moi, j'assume ma position. Encore une fois, je respecte aussi le caractère apolitique de cette manifestation, c'est-à-dire que, par exemple, nous tractons depuis déjà des semaines sur ce sujet des carburants. Nous tracterons toute la semaine, mais nous tracterons pas le 17, parce que le 17, c'est une grande manifestation qui vise à réunir tous les Français qui sont en opposition avec cette politique, quel que soit leur bord politique.
Les syndicats n'en seront pas non plus parce que, j'en cite un, ces blocages, ils sont récupérés par l'extrême droite et peut-être un peu plus. Ça, c'est Laurent Berger de la CFDT. Que lui répondez-vous sur ce point?
Bon, je pense que les syndicats sont totalement décrédibilisés dans cette affaire. La CGT avait sorti un communiqué proprement ahurissant où ils expliquaient en quelque sorte ce que nous disons d'ailleurs depuis longtemps, c'est que le rôle des syndicats, c'est de canaliser la colère. Mais surtout, c'est de la faire stopper au moment où ils ont passé un accord avec le gouvernement. Et les syndicats ne détestent rien de plus que lorsque le peuple défend aussi ses intérêts. Eh bien, ceci démontre de quel côté de la rive ils sont.
C'est plus efficace que le travail des syndicats.
Non, mais de quel côté de la rive ils sont. Ils sont du côté, en l'occurrence, des élites. Ils sont du côté du système, ces syndicats, qui sont main dans la main, il faut bien le dire, avec tous les gouvernements successifs depuis des décennies.
Marine Le Pen, est-ce que vous dites comme Jean-Luc Mélenchon qu'il faut que les Européennes qui arrivent soient un référendum contre Emmanuel Macron?
Non, je ne le crois pas. Je pense qu'il faut que ce soit un référendum contre l'Union Européenne. Si vous voulez, moi, je me trompe pas de combat. Je suis pas en train de refaire une élection, et notamment l'élection présidentielle. Je pense que Emmanuel Macron, incontestablement, aujourd'hui, symbolise le choix d'une Europe fédérale qui a fait beaucoup de mal, qui a imposé une austérité, qui se constitue comme un empire, qui avance contre les peuples. C'est même plus sans les peuples aujourd'hui, c'est contre les peuples. Et il en est le symbole. Mais c'est contre l'Union européenne que nous luttons. Parce que le combat des européennes, c'est le combat, c'est un combat d'indépendance, si vous voulez, c'est le combat de l'indépendance des nations et c'est le combat de la démocratie, c'est-à-dire du peuple contre ceux qui cherchent à imposer au peuple leur volonté.
Vous avez déclaré à Verdun la chose suivante, c'était le 10 novembre, la liberté c'est le droit de décider pour soi-même, c'est aussi le droit de rester soi-même, nous voulons réconcilier la soif d'indépendance et le besoin d'appartenance. Et j'ai pas compris. Ça veut dire quoi, Marine
Le Pen ? Ça m'étonne pas.
Vous sortez de l'Europe, vous allez m'expliquer. Vous sortez de l'Europe, vous y restez, vous faites un référendum, vous faites quoi ? Je comprends pas, cette phrase peut dire tout et son contraire.
Mais, non, mais cette phrase n'est pas un calendrier de ce que je compte faire. Cette phrase, c'est la philosophie que je défends. C'est-à-dire la France et les Français ont le droit de décider pour eux-mêmes et non pas à se voir soumettre à des décisions prises par des technocrates européistes non élus, mais ils ont aussi le droit d'être eux-mêmes. Mmh. Être eux-mêmes, ça veut dire défendre leur culture, leur mode de vie et s'opposer à une immigration massive qui aujourd'hui ressemble de plus en plus à une submersion migratoire et qui vise progressivement à leur imposer une manière de vivre qui n'est pas la leur.
Mais je vais pas vous dire ça. Programme de gouvernement
dire ça
ou de
France Inter
ou de réforme
puisque
de...
vous avez longuement interrogé messieurs Davet et Lhomme qui sont venus expliquer ce que nous disons depuis des années sous les injures et les critiques d'une partie de la classe politique et médiatique, à savoir la montée en puissance du fondamentalisme islamiste, notamment en Seine-Saint-Denis, mais ils se sont limités eux à la Seine-Saint-Denis. Moi, je viens vous dire que cette montée du fondamentalisme islamiste, elle existe dans des centaines de quartiers et de villes en France aujourd'hui.
Pardonnez-nous d'être le bas de plafond illimité, mais on va reposer la question sur votre position sur les européennes. Marine Le Pen, pendant la campagne présidentielle, vous avez défendu une position qui était « on sort de l'euro, on sort de l'Union européenne ». Aujourd'hui, vous avez évolué. Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous dites « on reste dans l'euro, mais il faut sortir de l'Union européenne » ? Est-ce que vous dites « on négocie à l'intérieur de l'Union européenne » ? Qu'est-ce que vous dites précisément derrière les mots d'indépendance,
mais je vais vous le dire et je l'ai dit 100 fois. La situation a changé. Et je pense que la grandeur d'un parti politique, c'est de s'adapter à la situation actuelle et pas à celle d'hier. Hier, nous n'avions pas d'autre choix. Nous n'avions pas des alliés assez puissants au sein de l'Europe pour pouvoir faire changer l'Union européenne. Donc c'était soit on se soumettait à l'Union européenne, et il n'en est pas question, compte tenu de tout ce qui est décidé et ce dont nous souffrons dans notre quotidien, soit on en sortait. Mais la situation a profondément changé. La montée en puissance en Europe de l'ensemble des mouvements politiques qui pour certains arrivent au gouvernement et qui sont sur la même longueur d'onde que nous, c'est-à-dire qui défendent l'indépendance de leur nation, qui veulent une Europe des nations et pas une Europe des technocrates, qui s'opposent à Bruxelles, qui s'opposent à l'immigration massive, qui s'opposent aux folles politiques d'austérité qui ont mené l'Union européenne dans une situation économique et sociale qui n'est pas enviable.
D'accord, mais vous faites quoi ? Il faut arrêter avec la Commission européenne, il faut la supprimer.
Oui, je pense qu'il faut en faire un simple secrétariat du Conseil. Ce sont les nations qui doivent reprendre la main parce que derrière les nations, ce sont les peuples qui reprennent la main. Et donc, si vous voulez, ce changement de poids politique nous permet aujourd'hui d'envisager effectivement de transformer l'Union européenne en une alliance européenne des nations qui est l'aspiration, je le crois, aujourd'hui des peuples.
Mais c'est ce qui existait avant, comme la Communauté européenne du charbon et de l'acier, mais c'est-à-dire une forme d'organisation minimale des nation, c'est ça ce que vous voulez, on démonte le reste.
Une organisation minimale, c'est-à-dire une organisation où vous n'êtes pas obligé de vous voir imposer des décisions qui vont à l'encontre de vos intérêts. Moi, je crois à la coopération entre les nations. Je crois à l'amitié entre les nations.
Mais est-ce qu'il y a un Parlement européen ou vous le supprimez, le Parlement européen ?
Non, on peut parfaitement avoir un Parlement européen. C'est d'ailleurs lui qui peut avoir l'initiative puisque la Commission ne l'aura plus. Mais encore une fois, il y a les nations et il y a le Parlement européen. Mais il n'y a pas ce nombre absolument absolument inouïe de technocrates qui n'ont de compte à rendre à personne et qui imposent leurs décisions.
Mais est-ce qu'il y a des règles communes, par exemple sur le glyphosate, chacun fait ce qu'il veut dans son pays ou est-ce qu'il y a des règles communes qui s'imposent, votées par le Conseil des Nations?
Madame, toute une série de domaines dans lesquels les nations peuvent et, à mon avis, doivent coopérer. Mais Airbus et Ariane, comment ça s'est fait? Eh bien, un projet a été mis sur la table et on a dit quelles sont les nations qui veulent y participer. Et un certain nombre de nations ont dit nous voulons y participer. Personne n'a été forcé d'y participer et chacun, en l'occurrence, peut en sortir. Ça s'appelle la liberté. Et c'est ce que je plaide. Je suis, moi, la candidate dans ces élections européennes de la liberté retrouvée des nations et donc des peuples qui les composent.
Allez, on file au standard de France Inter pour donner la parole aux auditeurs. Bonjour Claude.
Oui, bonjour.
Et bienvenue, on vous écoute.
Alors, je voudrais poser deux questions à Marine Le Pen. Une première question concernant le prix de l'essence. En Italie, l'essence est plus chère qu'en France. Qu'est-ce qu'elle dit à ce sujet à Mario Salvini?
Mais permettez-moi de vous dire que ça n'est pas mon problème.
Merci Claude pour la question.
Claude,
Marine Le Pen.
C'est le problème de Matteo Salvini. Moi, je suis un défenseur de la souveraineté des nations. Je veux qu'on se comprenne bien. Mon objectif n'est pas de remplacer un empire par un empire. Mon objectif n'est pas d'imposer mon modèle aux autres. Mon objectif, c'est de défendre la liberté de pouvoir choisir notre modèle, nous, en France. C'est ça ce qui nous différencie fondamentalement de l'Union européenne. Donc Matteo Salvini fait ses choix, il fait ses choix fiscaux et je crois qu'aujourd'hui ses choix budgétaires vont à l'encontre des exigences de l'Union européenne. Moi, ce que je dis, c'est que la taxe carbone était de 7 euros par tonne en 2014 et qu'elle sera de 65 euros par tonne en 2022. Voilà, c'est ça que je dis et que ce sera insupportable. Nous allons d'ailleurs proposer une loi. Nous allons faire une proposition de loi au Rassemblement national, à l'Assemblée nationale, pour demander la suppression de la TVA sur les taxes. Car figurez-vous, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais nous payons dans l'essence des TVA non pas sur le produit carburant, mais sur le produit carburant plus les taxes. Donc nous payons des taxes sur les taxes. Eh bien moi, je crois qu'il faut supprimer ce qui relève d'une véritable injustice fiscale et ceci permettra d'alléger évidemment le prix du carburant à la pompe.
Le tweet de Donald Trump quand il tweet que la France est insultante avec la décision d'Emmanuel Macron de créer une armée européenne, vous comprenez son tweet à Donald Trump?
Bien sûr, je le comprends. Évidemment que je le comprends. Et ce que je n'ai pas compris, c'est ce bellicisme d'Emmanuel Macron. Enfin, écoutez, voilà un homme qui veut faire croire qu'il défend la paix et qu'il n'a eu de cesse depuis son arrivée à l'Élysée que d'aggraver les tensions avec un nombre de pays de plus en plus important. Il insulte les homologues européens. Vous croyez que ça fait une politique étrangère, ça, de traiter les gens de fous, de lépreux, et j'en passe et des meilleurs. Et aujourd'hui, il vient dire à des pays, dont un qui est un allié, nous allons construire une armée européenne car nous considérons que la grande menace de demain, c'est vous, les États-Unis.
Non, il n'a pas dit
vous,
ça. Non, non.
Si, c'est cela.
Non, il n'a pas dit
évidemment
ça.
Que oui.
Il a dit face à la montée de la Russie, il n'a pas parlé des États-Unis.
Non, il a parlé des États-Unis, vous le savez. Il a parlé de la Chine,
il a parlé de
la Russie et il a parlé des États-Unis. Bon, pourquoi, encore une fois, vouloir entrer en guerre, même si c'est une guerre diplomatique, avec le monde entier? Est-ce que vous croyez sincèrement que la Russie est le pire danger aujourd'hui? Moi, je crois que le pire danger, c'est le fondamentalisme islamiste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais demandé que l'OTAN change de nature et que l'OTAN, définitivement, devienne une structure pour lutter contre le fondamentalisme islamiste avec l'aide, évidemment, des nations qui le composent.
On retourne au standard. Bonjour Zachary et bienvenue à l'antenne d'Inter.
Bonjour, bonjour Madame Le Pen. On voit dans votre discours que justement l'idée de nation est assez segmentante aujourd'hui. Et justement avec la confrontation entre M. Trump et M. Macron ce week-end, Bolsonaro au Brésil et M. Salvini en Italie, est-ce que vous vous réjouissez, vous, de cette formation un petit peu de cette internationale nationaliste dans le monde?
Merci Zachary pour cette question. Donc sur l'internationale nationaliste en train de se former selon...
Moi, je cherche pas à la création d'une internationale nationaliste. Moi, ce que je vois, et ce que manifestement certains ne veulent pas voir, c'est que le monde est en train de tourner le dos à la mondialisation sauvage. Voilà, c'est clair. La mondialisation sauvage en est arrivée au bout. On a vu les ravages sur le plan du droit social, sur le plan du bonheur des populations, sur le plan des équilibres budgétaires, financiers qui en sont, et sur le plan aussi des déséquilibres culturels et des grandes migrations qui en sont les conséquences. Donc le monde est en train de tourner dos. La Chine, la Russie, les États-Unis et toute une série de pays en Europe sont en train de dire maintenant la mondialisation sauvage, stop. La meilleure protection, c'est la nation. Et nous souhaitons retrouver les attributs de souveraineté de nos nations respectives, parce que de ces attributs de souveraineté dépendent les protections que la nation peut offrir
Vous vous sentez proche, à défaut d'une internationale qui serait structurée, est-ce que vous vous sentez proche de tous ces pays, de tous ces dirigeants-là? Est-ce que vous avez une vraie proximité avec eux, intellectuels et politiques?
Mais intellectuels et politiques, en tout cas pas économiques. Vous voyez, il y a par exemple des divergences très importantes, y compris, je vous signale, au sein même, encore une fois, de notre groupe au Parlement européen. Nous avons avec l'Autriche des divergences sur le plan économique, mais est-ce que ce sont vraiment des divergences? Non, c'est le simple respect de leur droit à choisir leur économie, à défendre leur identité économique, à choisir leur modèle social, et le droit de la France à faire de même. Donc, nous n'avons pas de confrontation. Je note seulement qu'encore une fois, nous assistons au grand retour des peuples et au grand retour des nations. Et qu'à mon avis, c'est cela, en l'occurrence, aujourd'hui, le sens de l'histoire.
Encore une question au standard. Léo, bonjour.
Bonjour, Madame Le Pen. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'hommage de Monsieur Macron la semaine dernière au maréchal Pétain. Et de si vous adhériez à la thèse du bouclier et de l'épée.
Merci Léo pour cette question. On me dit que vous avez 18 ans. L'hommage d'Emmanuel Macron au maréchal Pétain, point d'interrogation. Ça réfère à la polémique de la semaine dernière.
Je pense que Emmanuel Macron a été extrêmement maladroit, car s'il y a bien un moment où il devait à tout prix préserver l'unité de la nation, c'est bien dans ce moment de commémoration de la Première Guerre mondiale. Commémoration sur lequel il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire dans son organisation. Permettez-moi, je reviens à votre question après, mais j'ai été extrêmement frappé et choqué, je dois le dire, de la manière dont le président serbe a été traité, mis en dehors de la tribune officiel, alors même que le président du Kosovo, qui n'existait pas en 14, était derrière le président Macron, tout en rappelant que la Serbie a perdu le plus fort taux de pourcentage de sa population dans cette Première Guerre mondiale. Un quart de sa population est morte au cours de la Première Guerre mondiale.
Marine Le Pen, votre père, Jean-Marie Le Pen, pense qu'il fallait faire un hommage au
Oui, d'accord, mais il ne vous a pas échappé que mon père et moi avons sur ces sujets des divergences qui ont été exprimées. Donc je pense encore une fois que Emmanuel Macron a eu tort de créer les conditions d'une polémique et d'une division à ce moment-là de commémoration de notre histoire.
Une question sur la loi de 1905. Elle va être amendée, Nicole Belloubet nous le confirmait la semaine dernière, notamment pour mieux autofinancer les cultes et contrôler qu'on ne fait pas de politique dans les mosquées, dans les lieux de culte notamment. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce qu'il faut amender la loi de 1905?
Non mais, moi je ne vais pas rentrer objectivement, participer à la séance de communication du gouvernement visant à faire croire qu'il s'agit là d'empêcher les prêches radicaux, etc. C'est un véritable mensonge. D'ailleurs on le voit bien. Enfin, combien de mosquées salafistes ont été fermées? Il paraît qu'il y en a 100 ou 130. Bon, on en a fermé combien là? Parce que au début, ils nous disaient oui, mais là, vous comprenez, on vient d'arriver. Mais là, maintenant, ça fait un an et demi.
On fait rien. On laisse l'Islam de France financer. On laisse l'Arabie Saoudite construire les mosquées.
Non, pas du tout.
Ou est-ce qu'on s'attaque au sujet et on parle de.
Non, mais ceci n'a rien à voir avec la loi sur la laïcité. Moi, je pense que la loi française doit interdire le financement étranger des mosquées. Voilà, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, la France est devenue le terrain de jeu des influences de toute une série de pays.
Donc réformer la loi de 1905 permettre l'autofinancement des cultes, ça n'est pas non plus une possibilité pour vous?
Non, on ne touche pas à la loi de 1905.
Étranger, même mieux pas que de financement ça. National.
Non, mais même
rien.
Mieux que ça. Non seulement on n'y touche pas, mais on l'applique, ce qui n'est pas le cas. Car aujourd'hui, il y a un certain nombre de collectivités qui financent par des biais détournés le culte musulman, et ça n'est pas admissible. Et puis je vous signale que dans cette proposition, il y a aussi la taxe halal. Et la taxe halal. Et
ils l'ont pas reprise.
Ils l'ont pas reprise. Bon, bah, vous voyez, comme quoi, le pire n'est pas obligatoirement toujours sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va créer les conditions du développement, de l'influence, notamment, il faut bien le dire, de l'UOIF, hein, qui a beau changer de nom, qui ne change pas de nature, sur la vie culturelle française, ce qui me permet d'exprimer les inquiétudes que j'exprime depuis, encore une fois, déjà bien longtemps.
Marine Le Pen, merci d'avoir été au micro de France Inter. Je rappelle que vous êtes présidente du Rassemblement National, ex-Front National.